Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenue dans On the Verge, le podcast dédié à la sexualité masculine. Pour ce 21e épisode, un échange peu habituel avec Misha, 24 ans. Comme vous l'entendrez à travers ce long entretien, Misha a des idées très arrêtées sur la place des hommes par rapport aux femmes, comment devrait être le rapport intime et le rôle de chacun dans notre société. Misha racontera son apprentissage via le porno qui l'a beaucoup aidé pour préparer sa première fois, son rapport très particulier à la séduction, véritable sport et clé de voûte de sa personnalité. Il partagera quelques-unes des méthodes précises qu'il met en place pour arriver à ses fins avec la jante féminine. Jamais tombé amoureux, Misha conclura sur son envie de se poser et vivre une histoire. Comme vous le constaterez, nous n'avons pas été d'accord sur de nombreux points avec Misha, mais fait en sorte de respecter au maximum ses idées afin qu'il puisse s'exprimer librement dans cet espace dédié, safe et bienveillant. Il est important de vous rappeler plus que jamais que l'idée de ce podcast est que chacun puisse s'exprimer librement sur sa sexualité, ses sentiments, ses expériences et ses idées. Il est essentiel pour notre société que chacun trouve un espace d'expression. C'est le reflet de la réalité. Et même si certains témoignages manquent de déconstruction et sont en opposition avec les idées que je défends ou les vôtres, il est important de ne procéder à aucune censure sur ce sujet. Misha va donc assez librement partager ses idées sur les minorités visibles et invisibles, les rapports hommes-femmes et son point de vue sur la théorie du genre. Il peut y avoir des propos choquants, blessants et humiliants, vous le savez. Je vous souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, c'est avec Misha que je suis. Misha, tu as 24 ans. Misha, ça fait... ça fait depuis septembre dernier qu'on discute. Il y a eu un petit raté de rendez-vous pour se voir. Et on a enfin trouvé ce moment pour enregistrer à distance, puisque tu es en Suisse. Ça va, Misha ?
Ça va très bien. Très bien confiné. Entre guillemets.
Ouais, on est en fin de on est en déconfinement, mais on est un peu cette période où on fait un peu attention. Misha, donc on a discuté de pas mal de choses, mais on va, je pense, y revenir pendant cet enregistrement. Mais avant, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Misha, c'est quoi ton tout premier souvenir lié à la sexualité ?
Mon tout premier souvenir. Par rapport à une relation ou...
Ah non, non, ton premier souvenir d'enfant, de jeune garçon, de... Quand je te dis ça, à quoi tu penses ?
Je pense directement aux femmes sur lesquelles j'ai fantasmé durant mon adolescence. Des stars, bah déjà à cette époque-là, il y avait déjà Internet, quand j'étais ado, donc voilà.
T'as 24 ans, donc t'es né début des années 90.
En 95 exactement. Donc oui, effectivement, c'était les premières masturbations, et c'est vrai que la sexualité, ça a toujours été tabou dans ma famille. Donc c'est vrai que j'ai toujours été dans la débrouille par rapport à moi-même sur ce sujet-là. J'en parlais jamais avec mon père, parce qu'il était trop occupé à bosser, et ma mère par des raisons familiales. Des traumatismes, elle a jamais parlé de ça. C'est je pense aussi lié à son éducation, très bourgeoise, assez stricte, on dit pas tout, il y a des non-dits, et du coup j'ai été élevé avec mes deux frères avec certains tabous. J'en ai un plus grand et un plus petit, un qui a 29, un qui a 22. Et disons que vu que j'ai été je suis le plus extraverti des trois, j'ai un caractère où il n'y a pas de tabou. Et du coup, mon cercle social, la société dans laquelle j'ai baigné durant l'adolescence, fait que j'avais pas de problème à parler de ça autour de moi, sauf à ma famille. Donc au début, c'était vraiment découverte par rapport à moi-même. De manière cachée chez moi, mais de manière ouverte avec mon entourage.
D'accord, donc si tu avais des questions quand tu étais petit garçon, parce que généralement on va demander à 4, 5, 6 ans comment on fait des bébés, c'est pas des questions que tu as posées à tes parents ou c'est pas des réponses que tu as eues ?
C'était des réponses, mais c'était toujours des réponses furtives, saupoudrées de beaucoup de métaphores, qui fait que ça me laissait dans un flou. Et donc, il a fallu... je me débrouille par moi-même et heureusement, il y a eu Internet pour avoir les réponses à ces questions-là. Mais c'est vrai que c'était pas les sujets évoqués, quoi.
Et à l'école ?
À l'école, là, je me suis senti tout de suite hétérosexuel en regardant les filles de ma classe à cette époque.
T'avais quel âge à peu près ? Tu t'en rappelles ? C'était dans quelle classe ?
Mon premier bisou ?
Bah, au-delà du premier bisou, mais les premiers, on va dire, chatouillements, quand tu pensais aux filles, c'était quoi ? C'était au collège ?
On va dire en primaire. En primaire, j'étais déjà dans la romance, à écrire des lettres à des filles, à avoir une certaine timidité qu'on retrouve chez beaucoup de petits garçons. Mm-hmm. L'idéalisation dès le départ envers les filles. Il y a toujours cette fille qui est convoitée. Il y a cet aspect d'inaccessibilité envers la fille. Donc du coup, la fille est plus un objet de contemplation que... tu as un être avec qui on va interagir. Donc en primaire, c'était de la contemplation avant que ça progresse au collège.
D'accord. Et au collège, donc, tu commences tes premiers flirts.
Et au collège, j'ai commencé mes premiers flirts. Et, disons que, ouais, fin de sixième, je commençais déjà à draguer vraiment les nanas de manière vraiment extravertie. Je sentais que j'avais la tchatch.
T'étais le petit rigolo ?
Ouais, on peut dire ça, le petit rigolo, avec les potes qui aimaient bien se faire voir, avec, je dirais, il y a toujours une compétition, même si elle est pas conscientisée à cet âge-là, une compétition sexuelle. Et ostentatoire, du coup, on a envie toujours voilà d'avoir la belle fille de la classe. Il y a une certaine image, entre guillemets, une marque qui se crée si on est avec la jolie fille. C'est vrai que j'ai commencé à aller vers les filles en sixième et jusqu'à mon premier bisou, c'était en cinquième. En cinquième, ouais.
Tu t'en rappelles ?
C'était pas juste un smack, c'était vraiment un roulage de pelle. ouais.
<c'est...
rire> disons que, ouais, je m'en rappelle très bien même. Déjà, depuis tout petit, je faisais du sport. De manière intense, j'ai fait 15 ans de natation à haut niveau. Donc j'étais toujours valorisé par ma mère physiquement, donc j'étais toujours beau, bien foutu en gros. Donc ma mère m'aidait beaucoup à me donner confiance en moi. Et puis oui, j'avais dragouillé une fille de ma classe en cinquième pendant quelques mois. Et puis on s'était dit, on se retrouve devant l'épicerie en sortant de l'école, en sortant des cours. Et on savait ce qu'on allait faire parce qu'on sortait déjà sur MSN à l'époque. C'était déjà la plateforme. Et du coup, j'y suis allé. Je lui ai roulé un gros patin, vraiment sans retenue quoi. Donc déjà j'avais cette espèce de comment dire, c'est.
Tu étais sûr de toi ?
C'est ça, c'est ça. Ouais.
Et comment ça s'est passé ta puberté, ton corps ? Parce que justement, si t'as fait de la natation à haut niveau, ton corps a aussi évolué en fonction du sport que tu as fait. Parce que si je suis pas trop mauvaise en calcul, t'as commencé prépubère, genre vers 9-10 ans.
La natation, j'ai fait de quand j'étais bébé nageur à 5-6 ans. Jusqu'à mes 20 ans.
Comment ça s'est passé, toi, ton rapport au corps ?
En plus de ce sport, je faisais du tennis et du rugby. Mais à la longue, fallait choisir parce que, vu que mes parents, c'était des compétiteurs, je suis d'une famille de sportifs avec mon grand-père qui avait fait les JO en 1946 en Allemagne. J'étais vraiment dans une famille où on mettait la pression, de la bonne pression, parfois de la mauvaise pression. Donc c'était vraiment fallait gagner. Donc c'était la natation et dans le vestiaire, effectivement.
Parce que c'est des âges quand même où tu es un peu pudique quand même, tu vois. Et s'il y a bien un sport où tu peux pas trop te cacher, c'est la natation.
Exactement, c'est pour ça que j'ai pas de pudeur. Pudeur physique et pudeur, on va dire, verbale. C'est pour ça que je suis très, je peux être très cash, j'ai pas de problème à dire les choses. J'aime pas les non-dits comme ça a été dans ma famille. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de reproduire ce schéma-là. Et donc, bah, le corps, c'est que, c'est que y a un, on développe, je développais déjà un côté assez narcissique. Assez narcissique assumé.
Parce que tu avais un joli corps.
Ouais, voilà, c'est. Et puis du coup, bah avec les filles, c'est. En fait, là où il y avait des filles, en plus en maillot de bain, bah c'est clair que là, je savais que j'étais en hétéro, quoi. Je savais que j'étais hétéro, parce que c'est vrai parfois on dit, c'est vrai que pendant l'adolescence, on se pose des questions sur l'identité sexuelle, etc. La natation, c'est là où j'ai commencé, on va dire, que c'est là où j'ai appris à aimer le corps d'une femme. Je trouve le corps d'une femme, enfin le corps, oui, d'une femme très magnifique, très bien fait. La nature a fait bien les choses.
Parce que tu voyais les nageuses et que du coup, pareil, il n'y avait pas tellement de secrets, quoi.
C'est ça. Ah bah c'est vrai qu'une fille en maillot de bain, elle peut pas se cacher tout physiquement. Donc effectivement, j'ai développé, on va dire, cette adoration de la femme pour le physique de la femme assez tôt. Et évidemment, dans le vestiaire, bah, c'était avec les copains, c'était toujours. On parlait très performance, etc. Mais il y avait aussi des discussions sur.
Quand tu parlais des performances et performances de vos
Oui,
filles
performance par
natation.
rapport aux courses, ouais, bien sûr. C'était trop tôt pour parler de performance
D'accord,
sexuelle.
d'accord.
Mais
Et on parlait
ouais.
aussi des filles. Et est-ce qu'il y avait de comment dirais-je, de ton la masculinité, parfois qu'on taxe de toxique, cette où on a besoin de montrer sa virilité. Est-ce que tu confirmes que c'était comme ça dans les vestiaires de sportifs?
Le rugby, c'est effectivement la virilité. Enfin, je parlerai pas de toxicité dans une logique concurrentielle entre nous, mais plus par l'esprit d'équipe qui a été forgé par les entraîneurs, mais plus une virilité. Voilà, on est des hommes, on est tous, on est des garçons déjà bien bâtis. On a un certain physique qui nous permet de faire ce sport. Il y avait pas disons de concurrence entre nous. Hein, c'est parce que vu qu'on prenait la douche nue, il y avait pas de moquerie. Enfin, en tout cas, moi dans mon club, j'étais au Stade Français à Paris. Après, effectivement, ceux qui jouaient ce qu'on appelle les piliers, qui étaient plus gras, plus gros, mais c'était toujours bienveillant, mais pas très, c'était pas des remarques récurrentes, désobligeantes et malveillantes.
Tu fais partie de cette génération où le porno était très facile d'accès. Est-ce que il rentre dans ta vie tôt, tard? Comment ça se passe? S'il rentre dans ta vie, bien sûr.
Ouais, je pense. Non, clairement, le porno est rentré dans ma vie vraiment à mes, on va dire, 15-16 ans.
Par quel biais? C'est toi qui cherches?
Ouais, c'est moi, ouais. C'est moi, j'avais déjà un ordinateur de bureau. J'avais ma période geek où je jouais à des jeux vidéo, etc. Mais c'est moi qui. J'avais pas de tabou à aller dessus. Mais effectivement. Je me cachais par rapport au fait que ma mère puisse rentrer, etc., dans la chambre, mais j'avais pas de, on va dire, mauvaise conscience d'aller sur du porno. C'était considéré comme quelque chose de naturel, étant donné que je n'avais pas les codes à 15-16 ans pour savoir séduire une femme et lui parler avec tous ces systèmes qui sont maintenant développés dans le business du coaching en séduction qu'on retrouve sur Internet.
Alors, avant de parler de ça, parce qu'effectivement, ouais, je pense que ça va être très intéressant que tu en parles, mais est-ce que tu te souviens de ta première masturbation?
Non, enfin, je sais que je m'en souviens l'une d'elles, mais je pense pas que c'était la première. Mais effectivement, vu que j'éjaculais pas, je me suis dit, bon, bah, ça procure quand même un orgasme. Bon, bah, apparemment, il y a une éjaculation, on va attendre et on va voir ce qui se passera. Mais alors là, la première, mais pas du tout. Pas du tout.
Ok, et après ça devient, j'imagine, je suppose, hein, mais bon, tu es un garçon qui grandit bien, qui est pubère correctement, etc. Donc la masturbation prend de la place dans ta vie, mais est-ce que c'est important? Est-ce que tu arrives aujourd'hui, à maintenant que tu es adulte, à jauger si c'était beaucoup ou pas beaucoup? Comment tu te places par rapport à ça?
Ah bah disons que à 15-16 ans il y avait vraiment la présence du porno au quotidien et du coup à 16-17 ans j'arrive au lycée et là effectivement j'étais tombé sur un ami qui on va dire qui avait confiance en lui, que je trouvais plus beau gosse que moi, donc je le prenais comme modèle et c'est là où j'ai commencé à apprendre des codes de séduction par rapport à lui. Mais c'est vrai que au lycée, porno a une place, on va dire, régulière, moins qu'à la découverte, parce que j'essaie quand même parce que je préfère toujours le réel au virtuel de base. Donc je préfère les interactions étant donné que je suis extraverti. Mais c'est vrai que le porno, on va dire, c'était régulier comme une comme on va dire boire et manger c'est devenu c'est on va dire un besoin. Bah là au lycée c'est vrai que c'était un besoin quotidien, mais j'étais pas dans l'exagération et dans toutes les dérives dans lesquelles beaucoup d'hommes peuvent tomber, c'est-à-dire faire 10 à 20 masturbations par jour, ce genre de choses. Donc, non, à 16-17 ans, au lycée, c'était normal, on va dire.
Revenons effectivement sur ce sujet du coaching et de la séduction, parce que tu dis qu'à 15-16 ans, t'as pas tellement les codes pour séduire les filles. Pourtant, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que t'es sportif, t'es beau garçon, t'as confiance en toi, t'as un caractère extraverti, donc t'as toutes les clés, en fait, pour plaire aux filles. Mais tu ressens quand même le besoin de te faire aider, dans le sens où tu as besoin d'aller consulter des coachs en séduction pour te donner ces fameuses clés. Comment tu l'expliques ?
Je pense que l'individualité que j'ai eue, c'est-à-dire là que c'est facile de parler à une fille avant que j'embrasse la première fille au collège. Ça arrivait qu'une fois. Après, j'ai aussi vécu des soucis familiaux qui ont fait que je m'étais plus replié sur moi-même. J'ai pas eu une bonne période personnelle, ce qui fait que je me suis dénigré. J'avais pas confiance en moi, je me laissais aller physiquement. Et du coup, au lycée, vu que j'avais un ami qui avait du succès avec les filles, on va dire que c'était vraiment lui, sans le savoir, qui m'a appris des choses. C'est-à-dire la manière d'échanger sur Facebook avec une fille. Il avait souvent des copines.
Il avait ton âge ?
Il avait mon âge, oui. Il avait mon âge, je crois. Il avait 16 ans quand il était en première. Là, actuellement, quand je repense à comment j'étais physiquement, sachant que je me trouve bien là et mieux, je me dis, oui, ok, physiquement, je plaisais. Mais disons que j'avais pas forcément la manière très mature et j'avais pas, on va dire, paradoxalement, j'avais pas, on va dire, cet accès facile de nouveau à parler aux filles au lycée, parce qu'il y a aussi la pression de tu fais quelque chose, tu tentes quelque chose avec elle, tout le monde va le savoir, donc il y avait une certaine pression sociale qui faisait que je me lançais jamais dans ce lycée-là, même si j'y étais très bien et j'ai rencontré deux de mes meilleurs amis. Mais c'est vrai que cet ami qui m'a fait vraiment, on va dire, qui m'a ouvert des portes psychologiques sur certains codes, ça m'a donné envie de me lancer.
Mais en fait, comment ça se concrétisait ? C'est-à-dire qu'il te donnait vraiment des méthodes qu'il allait chercher sur
Internet ? C'était des méthodes, vraiment des méthodes pratico-pratiques.
Vous alliez voir quoi comme type de site, par exemple ?
Alors, il me montrait pas des sites, il me montrait ses messages à lui, comment il faisait, les longueurs du message, s'il fallait répondre avec un emoji.
Ah oui, c'était un vrai coaching, mais très personnalisé, quoi.
C'est ça, c'était ça. C'est justement, ouais, mais comment tu fais franchement, il y avait toujours des filles autour de lui, tu fais comment, etc. Puis il avait la gentillesse de m'expliquer. Et puis c'est là où je me suis intéressé à ça et j'ai trouvé, donc c'était en 2010-2011, à une chaîne sur YouTube, Nicolas Dolto, qui est devenu Yann Piette, mais ça a commencé officiellement avec lui. J'ai découvert sa chaîne et je n'ai fait que boire ses vidéos et apprendre tous les codes.
Et c'est quoi les codes?
Ah bah les codes, c'est d'abord c'est dépasser sa timidité, s'habituer au râteau, accepter le râteau, se détacher du résultat, arrêter d'idéaliser les filles comme on l'a toujours fait de manière naturelle depuis qu'on est petit. Arrêter de les mettre sur un piédestal. En fait, c'était tout un travail de déconstruction à faire.
Comment tu expliques qu'on idéalise les femmes et qu'on les met sur un piédestal?
Je ne sais plus exactement l'explication précise, mais j'avais vu une vidéo d'un célèbre psychiatre qui s'appelle Jordan Peterson, qui explique bien pourquoi génétiquement, naturellement, les hommes idéalisent les femmes qui sont très belles. On le voit même aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Par exemple, Instagram n'est qu'une vitrine pour les filles, et donc pour les mannequins, les actrices, on sait vraiment que c'est une vitrine pour les hommes. Donc il y a, en fait, elle est tellement belle, elle est tellement inaccessible qu'on n'ose même pas lui parler, la toucher. En fait, on préfère, comme je disais, être dans une logique de contemplation.
On en revient au petit garçon que tu étais, le petit Micha en primaire. Hein,
c'est ça.
Qui contemple.
Et on pense forcément qu'une femme très très jolie va forcément nous repousser, va forcément être désirable, désagréable, parce qu'effectivement une femme jolie, entre guillemets sur le marché, tous les hommes sont autour. Donc vu que la fille qui est très très belle, elle doit faire un choix, là il y a une concurrence féroce entre les hommes. Et donc on se dit, ah mais cette femme-là elle est inaccessible, elle a sûrement quelqu'un, on s'invente plein d'excuses, je pense qu'elle est supérieure, donc tout un tas de choses qui fait que il fallait déconstruire ça pour franchir le pas et prendre encore plus confiance en moi et puis pour me lancer ensuite dans ce qu'on appelle la drague de rue et un bandé dans la rue les années suivantes.
Et pour revenir sur Instagram, toi qui es effectivement cette génération à fond, réseaux sociaux, etc. Tu penses quoi de ce mouvement justement du body positive?
Body positive?
Ouais.
C'est un nouveau hashtag qui a été lancé ou j'ai loupé quelque chose?
Et tu sais, c'est le fameux hashtag qui met en avant toutes les formes de corps, quelle que soit leur corpulence, leur forme, leurs défauts. Et puis surtout, ça met en avant la réalité. Les femmes qui ont des vergetures, qui ont de la peau d'orange, toutes ces choses qui sont naturelles chez les femmes, mais chez les hommes aussi, bien sûr. Hein. Mais c'est justement casser la norme des corps parfaits. C'est au contraire montrer la réalité, la diversité des corps et que tous les corps sont beaux.
Alors là, c'est un sujet, on va dire, je vais pas faire partie des personnes qui sont dans le politiquement correct. Je pense que c'est, je pense que on fait la promotion des corps qui, pour beaucoup d'hommes, ne sont pas attirants en soirée. C'est-à-dire qu'on met en avant une minorité qui est idéalisée, parce qu'il y a forcément évidemment des personnes qui aiment des femmes rondes, voire plus grosses, avec certaines vergetures. Enfin, il y a toujours des individualités. Mais objectivement, tout le monde va se retourner si c'est une fille fine, avec certains critères, je sais pas, blonde, brune, avec des traits du visage harmonieux. Donc le fait de faire la promotion, par exemple, des femmes grosses, c'est pas les aider. C'est-à-dire que majoritairement, un corps de femme grosse, ça ne plaît pas aux hommes, de manière objective et factuelle. Et donc je pense que on est dans une logique qui est en fait contre-intuitive. C'est ne pas encourager les femmes à faire du sport parce que être grosse, c'est quand même problématique, ça pose des problèmes de diabète, ça a alors, des inconvénients d'être grosse, pardon.
Je comprends ce que tu dis, même si être grosse, alors évidemment il y a l'obésité morbide, l'obésité, le surpoids qui peut être grave pour la santé, parce que comme tu le dis, ça peut être des facteurs de diabète, de cholestérol, qui font mal aux articulations, etc. Mais il y a beaucoup de corps ronds qui sont en excellente santé et qui sont presque parfois en meilleure santé que quelqu'un qui va faire trop attention à sa ligne, qui va être en carence, etc. Il y a des femmes, la taille moyenne des femmes en France, toi qui aimes, on en a parlé avant d'ouvrir les micros, les statistiques, la taille moyenne des femmes en France est 1m63, la hauteur, et 42, la taille de vêtements. 42, c'est pas 36, c'est 10-15 kilos de plus. Donc,
tu me parles qu'en France, là, en fait. Tu me parles
Là, je parle en France. Okay. Oh, ouais, bien sûr, je parle en France. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est aussi rappeler, je ne suis pas en train de te dire ce que tu as tort ou pas, hein, mais de rappeler qu'un corps gros, en tout cas plus rond que la moyenne, enfin en tout cas que l'esthétisme dont tu parles, n'est pas forcément en mauvaise santé. C'est pas quelqu'un forcément qui a des problèmes de santé. Un corps peut être harmonieux même s'il fait une taille 42, 44, et un corps peut être malade, il faut le rappeler aussi, même s'il fait un 34 ou un 36. C'est important de le dire. Et il y a des femmes très rondes qui font beaucoup de sport et des femmes très minces qui n'en font pas du tout.
Il y a aussi, je pense qu'il y a des prédispositions génétiques
aussi
à prendre en compte. Bah après, il faudrait voir parce que ça dépend où est-ce que tu places le curseur. D'être grosse. Ça m'est déjà arrivé de me balader dans la rue à Paris, de voir des affiches où c'était vraiment l'obésité vraiment, comme tu disais, morbide. Enfin, enfin, je comprends pas en fait la logique. Alors effectivement, les femmes rondes, effectivement, elles peuvent être en bonne santé, mais moi, je parle vraiment dans l'exagération. C'est-à-dire que mettre une obèse sur une affiche et dire bon, faut l'accepter, alors qu'il y a des problèmes de santé pour elle derrière, c'est pas lui rendre service.
Mais tu penses pas qu'elle le sait ou qu'il le sait, cet homme ou cette femme qui est obèse, tu penses pas qu'il est au courant de sa condition physique et qu'il sait ou qu'elle sait que par une prédisposition génétique, par une maladie ou par des graves failles émotionnelles, tu penses pas que cette personne sait déjà qu'elle est malade ou tout simplement qu'elle ne va pas bien et qu'elle mérite quand même l'empathie et que les gens autour d'elle soient tolérants?
Bah, disons que j'ai pas de problème. Évidemment, je vais pas dire dans la rue « sale grosse », mais
tu vas pas l'encourager.
Je vais pas l'encourager si en plus elle fait critique des femmes parce que ça peut aussi s'expliquer par des complexes psychologiques. Mais je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre. Mais après, il y a des femmes, enfin ces femmes qui sont vraiment obèses, c'est une certaine, elles cherchent à se faire valider par la société. Sans faire l'effort. Et je trouve qu'on est plus dans une société où on fait l'effort de faire les choses et que c'est plus facile d'inventer un terme et de mettre le mot hobby comme grossophobie au lieu de travailler sur soi-même. En fait, je trouve ça trop facile.
Est-ce que tu penses parfois que ce travail-là, il est juste impossible ou pas possible, ou difficile? Est-ce que, je ne sais pas si dans ton entourage, tu as des gens qui sont malades ou obèses, ou une maladie invisible, etc. Mais tu ne penses pas que ces minorités invisibles, qu'on ne voit quasiment pas dans les médias et en référence dans notre paysage médiatique et audiovisuel, tu ne penses pas que parfois c'est juste impossible de changer?
Disons que... Elle peut avoir elle a bien sûr le droit de, par exemple, si tu parles d'être présentatrice, par exemple, sauf que l'hypocrisie, c'est la loi du marché. C'est-à-dire que dans une entreprise, un média, le but c'est que le spectateur reste devant sa télé et il va rester devant sa télé s'il voit une blonde fine comme il y en a actuellement. Et donc je vois pas en fait pourquoi on devrait emmener ces femmes à ces postes-là si elles sont incompétentes. Je veux dire, si elles sont compétentes, ça me pose pas de problème. Mais après, il y a l'hypocrisie de dire ça publiquement, mais effectivement parce que la loi du marché, parce qu'il y a une loi du marché, une loi économique, c'est plus rentable de mettre une belle femme parce que les gens vont rester devant la télé On n'a jamais vu une femme grosse et avec des traits pas harmonieux du visage présenter la météo, par exemple. Donc c'est si elle est compétente, moi ça me dérange pas. Moi je suis plus dans des notions de méritocratie et de compétence. Après c'est, je trouve la société hypocrite de faire ça en fait. C'est pour ça que ça les rend pas service. On se fout d'elle doublement en fait.
D'accord. Est-ce que toi, tu pourrais avoir du désir sexuel, tu penses, pour une femme ronde ?
Non. Parce que, de par mon expérience, mes conquêtes, ça n'a jamais...
T'as un type de femme ?
Ouais, j'ai un type de femme précis physiquement. Je n'ai jamais... je n'ai jamais été attiré par des femmes grosses, non.
Quand tu vois par exemple le top Ashley Graham, quand tu vois, il y en a plein, hein, mais ce genre de femme, tu les trouves pas séduisantes.
Alors je vois pas qui c'est.
Elle est incroyable et tu vois ce genre de corps là, ça ne t'émeut pas.
Ah non du tout, non du tout.
Tu parlais à dos de personnes, de célébrités, de comédiennes, etc. qui te t'émoustillait. Il y avait qui comme style de nana?
Ah, Clara Morgan.
Ah oui, ok.
Ouais, c'était principalement Clara Morgan.
D'accord.
Après, ouais, non, c'est... Ah, c'est... Non, depuis tout petit, je ne suis attiré que par les femmes minces. Franchement, quand je vois effectivement à quoi elles ressemblent, là, non, ça ne m'attire pas du tout. Je trouve que c'est...
Mais est-ce que tu peux reconnaître qu'elle est jolie?
De visage?
Son harmonie, tu parlais d'harmonie, elle est très harmonieuse dans son corps.
Oui.
Mais tu n'arrives pas à reconnaître qu'elle est belle. Son corps, hein, pas parce que son visage, je pense.
Non.
Que... D'accord.
Si être belle, c'est pour une femme, on va dire, qui a beaucoup de forme, qui a un certain poids, volume de graisse, c'est faire un ajout de maquillage, de vêtements sexy. Si on met tous ces artifices, alors dans ce cas, on peut rendre une femme... on va dire acceptable pour beaucoup d'hommes, mais moi je trouve ça en fait trop en fait.
Je veux pas balancer, mais on peut pas dire que Clara Morgan soit très naturelle. Elle est très maquillée, elle a beaucoup de, tu vois, d'artifices aussi de corps.
Ah, c'est clair. Ah, mais c'était quand j'avais 13-14 ans.
Non,
attention.
Mais je te taquine. Hein.
Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Mais disons que. Déjà, j'ai une préférence pour les femmes ethniquement européennes. J'ai toujours préféré les blondes, mais bon, dans la pratique, ça a été majoritairement que des brunes. Donc,
bon, tu n'as que 25 ans, tu as le temps, mais ok. Donc, on fait un petit retour en arrière. Donc, t'es au lycée, tu es avec ton pote qui t'apprend un peu à draguer les filles. Donc, jusqu'à maintenant. Tu as eu ton premier bisou, des flirts, mais t'as pas encore eu ta première fois.
Eh ben, ma première fois, je l'ai eu quelques mois après.
Le coaching du copain. Il t'a aidé à concrétiser.
C'est ça. Il m'a aidé à comprendre, effectivement.
D'accord.
Et ça s'est fait juste après le bac. C'était un mois avant. C'était juillet 2013. J'étais sorti en boîte. Et là, je me suis dit, allez. C'est ma première fois en boîte, je porte mes couilles et j'y vais et je vais aller aborder la femme que je trouve, la fille que je trouve la plus belle.
D'accord.
Et j'y suis allé.
C'était ton lycée ou rien à voir?
Qui était dans un lycée voisin à 100 mètres, vu qu'il y avait deux lycées qui étaient voisins. Donc je l'avais abordé, j'avais pas conclu ce soir-là, mais j'ai persisté. Et j'étais en fait étonné, même si j'étais là en mode j'ai confiance en moi, je vais y aller. J'étais étonné de savoir que j'avais un potentiel, pas par rapport à mon physique, mais plus psychologique, paraverbal.
La tchatche.
Voilà, la tchatche. Mais là, savoir que c'était une femme très convoitée, que tout le monde trouvait jolie.
Globalement, t'es allé pécho la plus jolie fille de la boîte.
C'est ça. Donc je l'ai revue deux semaines après. Et j'ai fait en sorte de faire une bouffe et puis après de la ramener chez elle et de faire ma première fois avec elle.
Alors comment ça s'est passé cette première fois, tu t'en rappelles?
Oui, je m'en rappelle très bien. Bah, je me rappelle très bien parce que c'était déjà une fille physiquement, on va dire, un certain standing. C'était, elle avait vraiment tout ce que je recherchais physiquement. Et il y avait ce jeu de séduction que j'aimais bien avec elle. Et j'aimais bien, effectivement, pour la première fois, je me suis dit, là, vu qu'elle prenait en main les choses au début, ah, je me suis dit, bon, bah, c'est super plaisant. Malgré ce qu'on peut dire sur le porno, ça m'a quand même aidé techniquement sur les
C'est
positions, la manière de
intéressant
faire.
que tu dises ça parce que voilà, il faut bien faire le distinguo entre la sexualité que tu vois dans le porno et ta sexualité. Mais toi, tu reconnais, même si tu fais la différence, que ça t'a quand même aidé dans l'appréhension de votre rapport intime.
C'est ça. Moi, j'ai toujours entendu le fait que c'était le porno, c'est vraiment biaisé, castrateur, c'est pas la réalité. Mais pour des ados de 16-17 ans, en tout cas moi, ça m'a été vraiment bénéfique. C'est-à-dire qu'on entend souvent, ouais, la première fois, bon, mec, tu vois, moi c'était pas top, c'était vraiment pas fou. Alors que moi, ça m'a, c'était une bonne première fois. C'est-à-dire que sur les positions, je savais lesquelles faire. Pour doigter, pour faire un cunnilingus, je m'étais vraiment rencardé. Bon, déjà, effectivement, avant de la voir, je m'étais rencardé sur tout ça pendant une bonne semaine. Je me préparais et j'ai passé une bonne première fois, contrairement à ce qu'on peut entendre. Ah non, ma première fois c'était nul, comme on peut entendre souvent.
D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, effectivement, ça t'a quand même voilà, permis de préparer le terrain et t'étais pas complètement étonné de tout ce qui se passait quand t'étais avec elle.
Non, voilà, c'est ça. C'est que je m'attendais à opposition, le
T'as
fait
été surpris quand même?
surpris au début. C'est-à-dire, je pense qu'on a toujours une surprise en tant que puceau, en tant que première fois, quand la fille commence à monter sur moi, sur le canapé, à commencer à me déboutonner la chemise. Là, effectivement, c'est surprenant de voir que ça se passe pour la première fois, pour de vrai, et qu'on n'est pas dans un film porno. Et au fur et à mesure, effectivement, avec l'affinité, les bonnes conversations qu'on avait eues durant le repas, bah, ça vient d'une certaine complicité. Donc après ce petit moment de surprise, d'effet de surprise au début, que ce soit la fille qui entre guillemets entreprennent les choses. Après, bah, on va dire, je me suis conformé à ma mission d'homme, de mener le rapport.
Donc la mission d'un homme, c'est de mener le rapport.
Bah, parce qu'au début, enfin, une fois qu'on l'a fait, il y a les potes autour. Il y a les potes autour et faut pas avoir été nul. Il faut avoir bien géré, comme on dit. Et pour moi, parce que ma fierté d'homme. Et évidemment parce que voilà, quand on a 17 ans, ben on est toujours on a envie de faire le kékos auprès de ses potes. Donc après je sentais la confiance venir en moi au fur et à mesure que l'acte sexuel se déroulait, parce que effectivement, comme je l'ai dit, le porno m'a donné confiance en moi pour préparer mon dépucelage.
C'est intéressant que tu dis ça, que tu dois mener, enfin que l'homme doit mener le rapport et que tu réfléchis au feedback que tu vas donner à tes potes. Il y a le moment présent quand même qui est important. Donc, enfin, tu t'es pas dit, bon après peut-être que les choses ont évolué maintenant, que tu es un peu plus âgé, ça y est que cette première fois a été faite, mais tu te dis pas que c'est un 50-50, que c'est un match qui se joue à deux. Enfin, j'ai plein d'images hein, à te donner, mais que c'est quelque chose qui se fait entre deux personnes consentantes et qu'il n'y a pas forcément d'enjeu.
Ah bah moi personnellement je l'ai pas pris comme ça. C'était tout de suite faut pas que je me foire. Parce que je savais que c'était une fille
Tu t'es mis la
que
pression.
c'est ça, il y a eu la pression. Parce que je savais que c'était une fille très convoitée au lycée. Faut pas que je foire tout simplement. Faut que je dure un certain temps. C'est vrai que du coup j'étais aussi, malgré le plaisir que je prenais, j'étais quand même dans une logique où je calculais ce que je faisais. C'est là où la balance, le curseur, il est dur à mettre entre prendre du plaisir sur le moment présent et calculer techniquement pour satisfaire la femme.
Avant que tu me donnes la recette pour satisfaire une femme, qu'est-ce qui s'est passé dans l'émotion quand tu as vu ce corps de femme nue et que le rapport a commencé?
Mon rêve devenu réalité. Là, ça m'a conforté dans cette, on va dire, contemplation de... En fait, j'admire le corps d'une femme nue.
Qu'est-ce que t'aimes chez le corps d'une femme? Qu'est-ce qui t'émule le plus?
Le fait que la peau soit plus fine que celle d'un homme, okay. qui est pas de poils.
Alors, il y a des femmes qui ont des poils, hein, tu sais.
Oui, oui, effectivement, dans la mouvance d'aujourd'hui, effectivement, être une femme maintenant, il faut avoir des poils, il paraît.
t'adhères pas?
Ah non, du tout. Non, non.
Pour toi, une femme doit être épilée?
Elle doit être épilée, ouais. Ouais, ouais, franchement, je sais pas...
Et tu l'expliques comment, ça, que ces injonctions-là, toi qui as 24 ans, donc qui est quand même théorie dans une certaine modernité et contemporain de cette époque-là, comment tu expliques que tu gardes ces vieux idéaux? Est-ce qu'une femme ne devrait pas faire ce dont elle a envie?
Bah, c'est ça le truc, c'est que tu appelles ça les vieux idéaux. Moi, j'appelle ça, derrière ton mot vieux idéaux, et je sais qu'il y a le mot stéréotype, et pour moi, c'est le mot stéréotype, ça sert à déconstruire une logique naturelle et génétique. C'est-à-dire que, parce qu'il y en a qui, il y a des femmes qui se revendiquent féministes, et souvent ces femmes qui se revendiquent, enfin une certaine branche, hein, je mets pas toutes les féministes dans le même sac, mais une certaine branche assez radicale qui se revendique féministe, en fait elles veulent se masculiniser, elles veulent devenir un homme avec les poils sous les bras, en n'étant pas rasées, en pensant combattre le patriarcat en se faisant une coupe de cheveux courts. Je veux pas faire de la psychanalyse de bazar, mais il y a une certaine haine de la féminité. Et quand on présente une photo d'une femme avec les critères que je viens de décrire et une autre photo d'une femme à talons avec une robe fine, cheveux bouclés, rouge à lèvres, comme la femme, le modèle de la femme très, très adulée dans les années 60 par exemple, je pense que objectivement une majorité d'hommes préfèrent instinctivement, naturellement, génétiquement, femme en robe à talons.
Tu penses que c'est instinctivement, génétiquement, et que c'est pas justement un modèle qui a été façonné par justement un patriarcat qui a fantasmé une femme accessoirisée, que mettre des talons à une femme, de mettre une robe du rouge à lèvres, des boucles voluptueuses, des mains manicurées, etc., c'est pas des accessoires? Parce que tu parles justement de génétique, une femme génétiquement, ça dépend les femmes évidemment, hein, a des poils. C'est génétique, tu vois, c'est son corps qui est ainsi fait. Moins que les hommes, ça arrive et ça en fait pas des femmes moins féminines. La société a imposé qu'elles enlèvent ses poils parce que c'était plus élégant, plus joli, parce que la peau était douce. Mais est-ce que justement l'essence même d'une femme, c'est de ne pas être femme et d'être libre et de faire ce qu'elle en veut de ses poils? C'est une question hein, que je te pose. Je cherche pas, tu vois, et je comprends tes choix et tes goûts. Hein. Tu vois, ils sont.
Bah, je veux bien.
Je pense, par beaucoup.
Aujourd'hui, avec ce mouvement-là, on essaye d'imposer. On essaye de prendre cette marginalité, parce que bon, quand on se balade dans la rue, c'est pas le portrait que je viens de dépeindre de la caricature d'une féministe radicale. C'est la distorsion, le décalage entre ce qui est présenté dans les médias et le réel. Une femme avec des poils, pas rasés, cheveux courts, plaît à une majorité d'hommes, dans ce cas ça me poserait pas problème, sauf que dans les faits, ce n'est pas le cas. Dans les faits, ce n'est pas le cas, c'est pour ça que dans les clips de rap, dans les films, comme symbole de beauté, on ne prend jamais ces modèles marginaux. Donc, prendre cette marginalité...
On prend des modèles qui sont un peu discutables aussi dans les clips de rap, non? Qui sont des femmes très accessoirisées, quand même.
Ah, mais clairement, je suis pas du tout un fan de la femme plastifiée dans les clips de rap, ça c'est clair. Mais je dis juste qu'il y a... c'est qu'il faut qu'elle soit, sans poils, avec une certaine poitrine, fine. C'est qu'il y a un certain modèle... qui se perpétue pour moi de manière naturelle. Et jusqu'à preuve du contraire, dans mon entourage, des nombreuses soirées que j'ai faites, même avec beaucoup, 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 beaucoup de femmes avec qui j'ai parlé, parce que moi, quand si j'essaye de séduire une femme, j'essaye toujours de savoir si insidieusement elle est dans cette mouvance-là.
Parce que ça te poserait un problème?
Bah, ça m'est déjà arrivé on va dire, de coucher avec des femmes qui étaient dans ton opinion, on va dire, voilà, c'est des stéréotypes, ce genre de choses. Mais ma manière de séduire est contradictoire avec ce qu'elle pense. Mais 2 heures plus tard, la fille, malgré le fait qu'elle m'ait dit, ouais, mais t'es vraiment quand même macho, hein. Bah, 2 heures après, la nature reprend ses droits et inconsciemment, elle accepte la drague du mec grand, barbu. Avec des qualités physiques objectives masculines, et 2 heures plus tard, ça n'empêche pas de l'avoir eu dans mon lit.
Ouais, je veux bien que tu étayes cette fameuse idée, enfin, pas idée, mais ce rapport dont tu parlais juste effectivement avant qu'on ouvre le micro, où tu parlais de ce rapport entre les hommes et les femmes qui était pour toi instinctif, primaire et génétique.
Bah, jusqu'à preuve du contraire, l'humanité est née de l'hétérosexualité, avec certaines préférences. Les rapports hommes-femmes, pour moi, se sont dégradés aujourd'hui. On est rentré dans une guerre des sexes tenue par des minorités agissantes et très bruyantes, très médiatisées, alors que dans le réel, quand on sort, on voit que, heureusement, la majorité des femmes ne pensent pas comme ça. Par les filles avec qui j'ai eu des plans cul, des sex friends, elles m'ont toujours dit que c'est des discours complètement hallucinants avec lesquels elles sont en désaccord. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que on met une minorité au devant de la scène. Alors que la majorité des femmes leur ont rien demandé et elles ne sont pas d'accord avec ces idées-là.
Elles sont pas d'accord avec quelle idée pour être précis?
Bah, les idées de comme quoi enfin la théorie du genre serait vraiment une révolution, une découverte révolutionnaire, que les valeurs masculines et féminines ne seraient pas vraiment ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'en fait on les a construites. Donc en fait tout se baserait sur une construction sociale toujours dans un déni de la science, de la génétique, des études scientifiques sérieuses. Pourtant très contradictoire parce que cette mouvance-là est très écologiste, très pro-environnementale. Là ça se gêne pas pour sortir des études chiffrées. Scientifiques sur le réchauffement climatique. Et par contre, quand on doit parler des rapports hommes-femmes, elles oublient toute la perspective évolutionniste qui repose sur le postulat que nos pensées, comportements, nos caractéristiques physiques sont le résultat on va dire, d'une évolution soumise aux mécanismes de sélection naturelle et de sélection sexuelle. Il y a des auteurs qui en parlent depuis des décennies. C'est des études sérieuses. C'est ultra complexe. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une logique binaire tenue par une minorité.
D'accord. Donc si on va dans cette logique-là, l'homosexualité, bon déjà, j'ai compris pour toi que c'était pas un sujet.
Ça dépend comment tu l'abordes. Mon frère est homosexuel, donc j'ai pas de problème à parler de ça avec lui. Après, si t'as une question dessus, tu peux me la poser. Y a pas de...
En fait, si je comprends bien, pour toi, là, dans ta logique, il n'y a pas de différence entre la nature et la culture, le sexe avec lequel on est et profondément ce qui nous définit.
Bah, si, il y a un rapport quand tu dis culture ou environnement.
Dans culture, j'entends environnement naturel et effectivement là où on grandit.
Ah, si, alors il y a un lien, mais il y a des liens. Enfin, ça, c'est génétiquement prouvé que, par exemple, certaines populations dans le monde ne réagissent pas de la même manière au climat, ne se développent pas de la même manière. À cause de différentes variables, que certaines ethnies ont une peau plus sensible ou moins sensible au soleil. L'environnement joue effectivement sur la base génétique depuis la création de l'homme en fait. Donc en disant, en prenant que l'histoire est un bloc monolithique, on est mieux aujourd'hui comme ça, c'est comme ça, et avant c'était des arriérés vraiment à la traîne, qui ne savaient rien, pas à la pointe, c'est vraiment mépriser les générations précédentes et l'histoire en fait. Donc il y a beaucoup de travaux sur la psychologie évolutionniste en fait qui casse toute cette logique de construction sociale comme par exemple quelque chose avec quelque chose en désaccord c'est voilà c'est la célèbre phrase de Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient. Donc ça c'est quand on voit la théorie du genre qui veut inciter des petits garçons à jouer à la poupée, porter des robes et des filles de jouer avec des action man, je suis pas d'accord. Parce que naturellement, si on les laisse faire, naturellement, bah, le petit garçon, il se dirige vers des choses aux couleurs bleues, au camion de pompier.
T'es sûr que c'est pas parce qu'on le lui donne? Si tu mets dans une pièce un petit garçon et que tu lui mets indépendamment un camion rouge de pompier, une dinette, tu penses qu'il va aller spontanément vers le camion de pompier?
Bah, j'invite les auditeurs à regarder un reportage de la RTS, Radio-Télévision Suisse Romande, là-dessus. Et effectivement, quand on voit que les petits garçons et les petites filles sont tout seuls dans une salle où ils ont le choix, naturellement, avec déjà une approche cognitive des choses, un ressenti, une compréhension qu'il a à son âge, avec la capacité du cerveau qui est développée à son âge, faisant fonctionner les circuits neuronaux, programmés depuis des millions d'années en fait, d'évolution.
Et tu penses pas qu'il y a une évolution du genre qui est possible?
Moi, je pense qu'il y a des sexes et pas du genre, et pas de genre en fait.
D'accord. Et
Donc,
tu penses pas que les gender fluides ou les gens qui effectivement vivent leur genre sur une palette de nuances entre le masculin et le féminin, ces gens-là tendent peut-être vers une évolution aussi
bah peut-être, ça j'en sais rien, je peux pas lire l'avenir. Disons que les homosexuels n'avaient pas la caisse de résonance qu'ils ont aujourd'hui. Je veux dire, beaucoup d'homosexuels ne se revendiquent pas de la communauté LGBT, sont.
Oui, tu me disais que ton frère avait qui est homosexuel, avait un sujet avec ça, ne se reconnaissait pas dans la communauté LGBT+.
Il est allé une fois à une ce qu'on appelle ouais, la gay pride.
Marche des fiertés.
Donc voir des homosexuels habillés, enfin habillés entre guillemets, avec comment on appelle ça, des déguisements SM. Avec des boules, en train de faire des choses obscènes, s'affirmer en tant qu'homosexuel, on va dire où est la décence en fait, surtout quand il y a des parents qui se baladent à côté avec des petits-enfants, il y a même des fellations qui se font au milieu de la rue, ça part totalement en vrille, ça qui fait que, bah, je veux dire, il se reconna... mon frère ne se reconnaissait pas là-dedans, il n'a pas besoin de s'affirmer, de dire. Eh oh, je suis homosexuel, je veux dire, ça reste privé. Il n'y a pas de ratonnade dans la rue parce qu'on est homosexuel dans Paris. Qu'une personne soit homosexuelle.
Enfin, dans Paris, tu connais cette ville et je la connais depuis fort longtemps aussi. Il y a quand même encore aujourd'hui, on casse du PD parce que la personne est homosexuelle et que pour une raison ou une autre, c'est décidé qu'elle l'est par un groupe d'individus. Et moi, j'ai des copains qui se sont fait casser la gueule parce qu'ils étaient PD ou présumés PD, laissés pour mort sur un trottoir, juste parce qu'ils avaient une sexualité qui n'était pas dans la norme. Ça arrive encore,
Ah,
malheureusement.
je dis pas. Ah oui, ça existe. J'aimerais bien savoir où. Parce que si tu me dis que c'est dans le 6e arrondissement de Paris, ça va être difficile à croire.
Ah bah là, en l'occurrence, le copain dont je te parle, c'était dans le 11e arrondissement, qui est un quartier quand même, tu vois, plutôt cool et plutôt entre populaire et bobo. Et il s'est fait, enfin, tu vois, il s'est fait vraiment défoncer la gueule, laissé pour mort sur un trottoir par trois mecs qui lui ont fracassé le crâne parce qu'il était homosexuel, parce qu'ils ont décidé qu'il était homosexuel à ce moment-là. Donc ça existe encore quand même.
Alors faisons un peu de généalogie, regardons qui sont ces personnes, quelle est l'identité de ces personnes, quelle culture ont ces personnes, quelle est leur manière de penser là-dessus, parce qu'on dit toujours des personnes ont agressé, mais qui sont ces gens-là? parce que je pense pas que dans la culture occidentale aujourd'hui, on assiste à des ratonnades de masse d'homosexuels dans les rues des grandes villes.
J'ai pas fait le dépôt de plainte et je rentrerai pas dans ce débat-là.
Mais c'est intéressant de voir qui. Parce qu'il y a certaines cultures qui n'admettent pas l'homosexualité. Après, c'est soit on va plus loin et on creuse le sujet, et là, ça devient border pour ton opinion. Et dans ce cas-là, ça va être difficile de discuter, mais si tu...
Pourquoi c'est border avec mon opinion ?
Souvent, le profil des gens qui violent, qui agressent, qui harcèlent, qui crachent sur les femmes, on les connaît. Enfin, cette année...
C'est qui ? Dis-moi.
Non, mais je peux te le dire cash, mais après, ça dépend si tu coupes ou quoi. La quantité devient qualité. Donc, c'est-à-dire que là, tu dois regarder les chiffres. Et l'année dernière, 52% des agressions à Paris étaient commises par des étrangers.
Mais c'est quoi des étrangers ?
Des personnes immigrées.
Des gens qui n'ont pas leur papier en France, c'est ça ?
Ouais, des gens qui ne sont pas français, ouais.
D'accord. Alors ça, je l'ignorais et je regarderai effectivement si j'arrive à trouver ces stats. J'aimerais revenir à ta sexualité, du coup, avant de faire, parce qu'on fait beaucoup du débat.
Non, mais c'est super passionnant de discuter avec toi.
Donc, tu as cette première fois avec cette très belle blonde. Donc, Saga, tu rentres dans ta sexualité à 18 ans, enfin 17-18 ans. Et donc, comment ça se passe à ce moment-là?
Alors, à partir du bac, chronologiquement jusqu'à maintenant, c'était... donc ma première fois en juillet 2013 et je rentre à la fac en septembre 2013 et là bah je rencontre des potes, je suis dans des délires voilà, classiques, on sort, on va en boîte, j'arrivais souvent à embrasser des filles, j'avais de plus en plus confiance en moi, je m'habillais mieux, etc. Et puis la seconde fois que j'ai couché, c'était en janvier 2014, quand on était parti entre potes dans un chalet à Chamonix chez un pote. Je me suis dit c'est bien, mais je sais que je peux faire mieux. Et c'est là où je commence à rentrer dans une logique, dans une volonté d'abondance, à suivre de plus en plus les coachs en séduction qui pulluaient sur internet à ce moment-là. C'était vraiment un boom avec beaucoup de coachs. Et 2014, j'avais pas réussi mon année de fac. Et en 2014, j'ai vécu un décès. Et du coup, je suis parti dans une pente un peu descendante de nouveau. C'est pour ça que c'était pas mal en dents de scie à ce moment-là, en 2014. 2015, je faisais une sorte de dépression que je n'arrivais pas à conscientiser. Et,
suite à ce décès ?
Suite à ce décès, voilà, je l'ai vécu très mal. Et après, 2015-2016, j'ai fait 2 années en école de commerce. Où là j'étais, pas très intégré, j'avais des soucis perso, c'était pas le top. Et fin 2016.
Là t'avais toujours pas eu de copine, enfin t'arrivais pas.
Ah non, c'était vraiment un vide sexuel pendant cette période-là. Et là fin 2016, là je chiale devant mes potes, je dis ça va pas, parce que mes potes. Moi, j'étais seul à Paris, alors j'avais mon réseau de meilleurs potes à Genève, je les voyais pas souvent, j'avais des soucis financiers, donc ça allait pas, et donc là, c'était janvier, du coup, 2017, je vais voir mes potes, ils essayent de me faire aller mieux, de me faire en reprendre en main, etc. Ça a marché parce qu'en fait, c'est d'eux dont j'avais besoin,
de leur amitié.
De leur amitié, parce que quand j'ai des amitiés, c'est très très fusionnel. Et c'est là où ça a vraiment démarré, février-mars 2017, je sortais de plus en plus, prenais soin de ma barbe, de mes fringues, et là je finissais mon année scolaire, mon année d'études à Paris, j'étais revenu l'été à Genève, et c'est là où j'ai appliqué toutes les techniques de séduction, j'ai commencé à draguer partout, que ce soit bar, boîte, dans la rue, parc.
Appli aussi, tu utilises les applis de
Non, du tout.
rencontre?
J'ai
D'accord.
jamais utilisé d'appli jusqu'à il y a 2 mois. J'étais
D'accord.
vraiment un attaché du réel, on va dire.
D'accord. Donc tu mettais en application les fameux conseils
C'est ça.
des coachs que tu avais eus sur Internet, du coup.
Exactement. Et puis en plus, il y avait une plateforme communautaire. J'étais avec des mecs qui étaient dans le même délire que moi, un groupe de Facebook de 400 membres. On se motivait, on se racontait nos soirées, on faisait des analyses psychogico-comportementales, verbales, paraverbales, avec les filles que chacun avait rencontrées. C'est des analyses qui font 2 pages Word. Donc c'était comprendre
Ah oui,
la.
c'est du sérieux.
Ah ouais, c'est là, je suis vraiment rentré dans le sérieux. J'ai lu des bouquins sur la psychologie féminine. J'ai commencé à lire des bouquins sur les classiques de la séduction, Mystery Method, The Game, pour vraiment apprendre les codes techniques de la séduction.
Qu'est-ce qu'il en ressort d'ailleurs? Avant que tu me racontes 2007, et là je sens que c'est le moment où ça va mieux dans ta vie intime, mais c'est quoi justement les tips et les bons conseils?
Tu veux dire comment agir, quelles sont les techniques?
Bah ouais, comment agir, quelles sont les techniques, et surtout qu'est-ce que la psychologie féminine?
Pas avoir peur d'aborder, déjà passer par l'approche d'aborder une femme dans la rue, ce qui est la base. Une fois qu'on a réussi à affronter cette peur, en se disant, il y avait des petits exercices, en disant, bon allez, aujourd'hui je sors et je vais aborder les femmes en sachant que je vais me prendre des râteaux. Donc si je vais aborder une femme et que je vais me prendre un râteau, ça va rien me faire parce que je me suis dit que j'allais me prendre des râteaux. Donc le but, c'était pas d'aborder pour avoir du succès, mais c'était d'aborder pour accepter les râteaux et de les assimiler, de les intégrer pour qu'après ça ne me fasse plus rien de m'en prendre. Donc déjà, c'était la première étape. Et ensuite, c'était comprendre la psychologie, c'est-à-dire le paraverbal d'une femme, comment elle se tient, la main dans les cheveux, utiliser évidemment l'humour qui marche très souvent. Donc ça veut dire qu'il faut améliorer son vocabulaire, et pour améliorer son vocabulaire, faut lire. Il faut savoir parler de soi-même sans rentrer, on va dire, dans une interaction où on n'écoute pas l'autre. Il faut regarder la fille intensément dans les yeux. Il faut comprendre ce qu'on appelle les théories de groupe, c'est-à-dire quand on est en soirée, se faire valider par les amis de la fille qu'on convoite. Dans ce cas-là, c'est déjà des points de gagné. Parce que si on aborde la fille, et puis il y a ce qu'on appelle une coque bloqueuse. Une coque bloqueuse, c'est l'ami de la fille qu'on convoite et qui va mettre des bâtons dans les roues. Tu veux empêcher la fille d'être avec moi. Donc c'est pour ça que c'est très important, même quand j'abordais des groupes de deux, trois filles, de toujours parler d'abord aux filles qui ne m'intéressaient pas pour avoir la validation. Et
D'accord.
après, c'est vraiment.
Et si la nana sort avec des potes garçons, tu y vas quand même?
J'y vais quand même en fait. Contrairement à ce qu'on pense, d'ailleurs j'ai refait la semaine dernière, en y allant, par exemple une fille et 2 mecs, souvent j'ai eu ce genre de retour plus tard dans la soirée, un mec est venu me dire, par exemple, putain un mec, t'avais les couilles quoi. Moi, je serais toi, je l'aurais pas fait. Parce qu'on pense tout de suite qu'il y a la fille avec deux Rottweiler en chien de garde en fait, et que du coup on pourrait pas y aller. C'est là où on se construit ce qu'on appelle dans les livres de séduction les croyances limitantes. On s'invente des excuses, on se dit ah mais c'est sûrement son copain, il va me casser la gueule. Et donc une fois qu'on dépasse ces barrières-là, moi j'y allais, et comme les filles que j'essayais d'avoir en tant que ami ou partenaire de validation, on va dire, je sympathisais bien avec les mecs, parce qu'après ces mecs, ils te laissent la voix pour parler à la fille en fait. Et c'est tout cette espèce de construction de réseau, parce qu'en boîte par exemple, quand on va aux toilettes, on est entre mecs dans les toilettes, on parle souvent, on est un peu éméché ou pas, et on se parle. Et puis on fait un peu connaissance. Et puis après chacun repart dans la boîte. Et je sais que en allant vers le mec avec qui j'ai sympathisé dans les toilettes, je le vois avec un groupe de belles filles. Je sais que si je vais vers lui, il va m'accepter, il ne va pas me prendre de haut. Si j'avais abordé les filles sans que je les rencontrais, sympathisé avec lui dans les toilettes, en fait. Si j'étais venu, si j'avais pas sympathisé avec lui dans les toilettes et j'arrivais direct, oui, il aurait pris ça, un concours de coq, il aurait pas aimé.
Micha, en fait, tu calcules tout.
C'est ça. C'est, en fait, au début, il faut.
C'est fatigant.
Bah, au début, faut calculer, il faut s'imprégner de ces techniques. Pour D'accord. que ça devienne naturel et qu'on n'y pense plus parce que D'accord. l'habitude fait que bah, c'est devenu naturel.
Ok, très bien, je comprends. Ok, moi je suis team vraiment beaucoup plus décontracté et naturel, mais après j'entends qu'il y a des techniques qui s'appliquent et ça doit être très intéressant à observer. Donc t'es en 2017 et là tes potes ont remonté le moral, ta famille de cœur t'a, on va dire, reboosté et qu'est-ce qui se passe ?
Bah de l'été 2017 jusqu'à février 2020, je suis sorti très souvent, j'abordais dans la rue avec facilité, je m'entraînais, je sortais avec des amis qui étaient dans le même délire, et j'apprenais, si tu veux, à développer, à faire, en fait, la séduction permet de faire du développement personnel, en fait, en même temps. Donc la séduction, c'est un bon moyen d'avoir confiance en soi. Du coup, j'ai enchaîné, entre guillemets, comme on dit vulgairement, les conquêtes.
Tu avais combien de conquêtes ?
21. Et quand je m'entraînais, par exemple, à la piscine, c'est devenu naturel pour moi d'aborder la fille qui était dans la ligne d'eau, parce qu'il y avait une fille qui devait avoir quoi, 19 ans, elle nageait dans la même ligne que moi, et puis je lui parlais, et puis après, bah... voilà, en une semaine, alors c'était une pure inconnue dans une ligne d'eau. Une semaine après, j'ai couché avec elle dans les douches de la piscine publique, par exemple. Enfin, s'adapter à l'environnement, apprivoiser l'environnement. Faut jamais se dire que c'est pas possible d'aborder là. Souvent, les réactions des filles quand je les aborde dans la rue, c'est putain, merci de m'aborder, c'est super sympa. Faudrait que beaucoup de mecs fassent comme toi, au lieu de se cacher derrière des applis. Ou de d'être obligé de se bourrer la gueule pour aborder. Donc on est tellement, et c'est pour ça que je fais le lien avec le féminisme castrateur, c'est que on est avec le harcèlement de rue, etc. Que du coup on a castré les hommes et du coup y a moins en moins d'hommes qui abordent les femmes et alors que la demande c'est que les femmes viennent les aborder dans la rue, c'est ça. Jamais je me suis pris une claque. Jamais un commentaire désobligeant, c'était toujours élogieux.
Ou si une femme venait de draguer dans la rue, tu réagirais comment ?
Alors déjà, je serais agréablement surpris, on va dire. Mais je préfère le faire moi-même. Je lui dirais, écoute, c'est gentil, il n'y a pas de souci. Bah là, je rentrerais dans un rapport de séduction, je lui dirais pas, non, tu m'as abordé, c'est à moi de le faire, va-t'en. Évidemment, là, dans ce cas-là, bon, bah, c'est la chose est rendue plus facile, mais... évidemment, je trouve ça marginal. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais effectivement, je revendique le fait que ça soit l'homme qui respecte une certaine tradition de galanterie, de faire la cour. Évidemment, avec les codes modernes aujourd'hui, moi, ça me plaît en fait d'être dans une démarche. D'être l'homme qui fasse le premier pas.
J'en arrive février 2020. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le confinement ?
Depuis que je suis rentré dans la boîte où je suis actuellement, j'ai essayé de tenter la séduction dans le milieu professionnel. Et je sais que c'est un terrain très à risque.
Ouais, on le dit, un job in job. Tu connaissais pas ?
Je connaissais pas. Bah, en tout cas, maintenant, je la connais, mais cadeau. Ok. Mais oui, mais en fait, c'est ça. J'aime bien le défi. Parfois, ça m'est, durant cette période-là, ces 2 ans et demi, j'étais plus satisfait, du début de l'interaction. Tout le processus de drague est bien plus jouissif que de coucher avec la personne, en fait. Ah, c'est à la limite, tu vois. Parfois, ça m'est déjà arrivé de me dire, bon, ok, j'ai couché avec elle, so what maintenant, parce que j'étais pas dans une logique de me poser, j'étais vraiment dans une logique, bah voilà.
Ça t'est arrivé de draguer des femmes que tu désirais pas vraiment sexuellement ? Que c'était plus pour le challenge de la draguer elle et que au final
ouais.
Une fois que ouais t'es dans le.
Dans ce cas, c'était plus dans une logique d'entraînement et d'échauffement. Par exemple, quand on arrive dans un bar boîte, faut directement développer une énergie. et parler à des filles qui ne nous plaisent pas. C'est un peu d'échauffement verbal, on va dire, de faire monter l'énergie et d'être plus à l'aise. Parce que si ça se trouve, cette fille-là, elle est au bar, mais si ça se trouve, après, à sa table ou sur la piste, elle connaît des filles, elle est avec des filles qui sont jolies. Du coup, en fait, toute interaction sociale a son utilité dans un bar, boîte ou n'importe où.
D'accord. Et ça t'est arrivé de draguer ce type de, on va dire, de... Oh, c'est horrible à dire, mais genre de fille d'entraînement. Et après, tu conclus avec le, tu la ramènes au final ou ça n'a
Non,
rien à
non,
voir?
non, 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 c'est juste, je fais une petite
D'accord.
discussion de 5-10 minutes pour me monter en énergie, parce que ça aussi, ça fait partie de...
Et petite pique facile, mais est-ce que parfois elles sont grosses, ces filles?
Pas mon idéal fine, femme fine, effectivement, parce qu'en fait, enfin, c'est devenu tellement naturel, et ça fait partie de ma personnalité d'aller voir les gens, de parler comme ça, de but en blanc. Que parfois je calcule tout de même pas son physique, tu vois. Donc il n'y a pas donc effectivement les filles que je souhaite avec qui je souhaite conclure, là je vais me poser des exigences, je vais me mettre des critères de notation, comme beaucoup d'hommes ont de critères. Mais c'est vrai que quand j'ai ce qu'on appelle vraiment communément dans le jargon une target, une cible, faut qu'il y ait un certain standing, un challenge, parce que c'est mes potes, je les ai emmenés sur ce terrain-là, de la drague, un peu initié. C'est vrai que c'est facile de parler à une fille qui ne nous plaît pas. C'est toujours plus détendu que quand on va parler à une fille qui est vraiment physiquement au-dessus de la masse. D'où avec le principe de l'idéalisation, la fille très très belle, ce genre de choses, toutes ces barrières. Ouais, enfin, ça m'est arrivé de juste comme échauffement, on va dire. Mais ça m'empêchait pas d'avoir une bonne discussion, d'être authentique dans mes propos et pas juste de parler juste pour m'échauffer.
Donc, tu as dragué en milieu professionnel.
Elle arrive en octobre. Du coup, ben, j'ai commencé avec cette fille-là. Et à la base, on était collègues. Et puis, la veille, enfin, c'était le jour de mon anniversaire, je l'avais invitée au bar. Et ça devenait chaud entre nous alors qu'elle était en couple. Et elle m'avait avoué que ça allait pas trop bien avec son gars, etc. Alors que le lendemain, elle se paxait avec. Donc, c'était bizarre. Mais donc, bon, j'ai dansé avec elle. Puis là, ça a craqué, juste embrassé. Voilà, elle est vite revenue à la raison, on va dire. Bon, elle a pris ses distances avec moi, elle s'en est voulu, etc. Bon, alors que moi j'étais célibataire, j'allais pas m'excuser. En fait, ça s'est fait naturellement, mais bon, si t'es une fille en couple qui va se paxer le lendemain, tu mets déjà les barrières assez rapidement, enfin, tu mets la limite rapidement, quoi. Et oui, et puis après, bah, il y avait une autre fille plus âgée dans la boîte avec qui j'ai conclu. Qui voulait plus continuer, on va dire, avec moi, parce que j'avais confié ma soirée avec elle à un collègue et elle l'a su.
Horreur de débutant, ça c'est clair. Pas non, ça, Micha, t'as déconné là.
Totalement,
Grave déconné là.
totalement.
Oh là là.
Grosse boulette. Et la
Et grosse
troisième
boulette.
fille, c'est là où je me suis dit. J'étais en train de presque tomber à Montréal, en fait. Je la voyais,
Ah.
c'est là où je me suis dit, parce que après, elle est arrivée en février, c'était une stagiaire, et on a flirté ensemble pendant 3 semaines, trois semaines et demie. On sortait, on faisait des soins entre collègues, on s'embrassait, machin, puis bon, voilà la suite. Mais elle m'a avoué, quand on a bu un verre, qu'elle voulait arrêter là parce que elle sentait que je commençais à m'attacher et que elle se sentait pas prête parce que elle avait encore des traumas de son ex qui l'avait dénigrée, rabaissée, voilà, un peu traumatisé ça, donc elle voulait pas se remettre rapidement avec quelqu'un.
T'es déjà tombé amoureux?
Non, 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 vraiment, vraiment pas en fait. Je sais que s'il n'y avait pas eu le Covid. Et si elle m'avait pas mis un stop net, c'est vrai que là, à ce moment-là, au bout de 3-4 semaines, j'arrive à la frontière, en fait.
Mais ça s'est pas fait.
Mais ouais, du coup, bah, je sais que c'était un peu, on va dire, inutile, ça servait à rien parce que pour mon projet de vie, je savais que là, voilà, c'est ma dernière année de taf et d'études qui est passée. Moi, je voulais revenir vivre et travailler en Suisse. Donc, mais je voulais quand même essayer en fermant les yeux et en me mentant à moi-même pour essayer une relation sur quelques mois.
Tu sais, une histoire d'amour, même si elle dure pas très longtemps, c'est déjà super à prendre, hein. T'es pas obligé de faire un projet de vie sur, tu vois, 10 ans.
Ah, je m'en balayais vite. Hein, dès que j'ai commencé, que ça sentait être border, sur le fait que je pouvais tomber amoureux, c'est clair, je commence à me poser des questions, mais bon, elle m'a mis un stop,
D'accord.
voilà, parce qu'elle sentait que ça commençait à devenir trop sérieux et que voilà, elle se sentait pas prête.
Le Covid est arrivé. Donc là, les applis.
Là, bah, en fait, c'est en mi-avril, c'est un bon ami à moi qui est sur Tinder et qui m'a dit d'essayer. Bon, voilà. Je me suis dit, bon, de toute façon, avec le Covid, niveau rencontre, là, dans la rue. J'ai même essayé au début, je me dis, non, non, attends, je vais quand même sortir, on va voir s'il y a des filles qui se battent dans la rue, qui sont posées ou quoi. Même si, vu que le confinement était moins strict en Suisse. Mais non, il y avait vraiment. C'était désert. Donc, je me suis dit, même une ou deux interactions, c'était pas fou, avec la parano. Donc, Tinder, et puis bah là, effectivement, ça tchatche avec des filles, ça a fait des visios, ce qu'on appelle des e-dates, mais c'est pour l'instant l'ouverture des frontières, vu que c'est des filles qui sont. Là, il y a deux filles qui sont côté France, donc à la frontière, pas loin. Et une fille qui est sur Genève et avec qui ça matchait bien, on avait fait un visio, mais on s'est pas vu. Elle m'a ghosté, je ne sais pas pour quelle raison. Elle me proposait de boire un verre. J'ai dit oui, j'ai jamais eu de suite. Mais là, je commence à changer. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi et je me dis que de 2017 à maintenant, de passer de 2 à 20. Enfin, 21, pardon. Pour moi, c'est une fierté, parce que je me suis prouvé à moi-même ce dont j'étais capable, et qu'il y a plein de choses qu'on nous enseigne, sur le fait de pas faire ci, pas, ah, si tu l'abordes, ça va peut-être la déranger. En fait, si j'avais pas déconstruit tout ce schéma mental, j'aurais pas eu, les aventures que j'ai eues avec ces filles-là, et, j'aurais pas pris aussi, le plaisir d'apprendre à les connaître. Et puis, on va dire aussi, une relation qui a été très authentique, plus que les autres, c'était l'année dernière, en été dernier, l'été dernier. C'était une fille de 34 ans qui était sur le groupe communautaire Facebook des dragueurs. Donc, il arrive qu'il y ait des filles. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais aller lui parler, voilà, bref, je recommence, etc. Et puis, on a parlé féminisme, etc. Puis, c'était quelqu'un qui était très en phase avec mes idées, les idées, ce dont je te parlais. Donc, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a un décalage quand même générationnel entre les filles de mon âge qui pensent plus comme toi, ouais, comme toi, et les. Non, mais c'est. tu es le. Tu es le bug dans la matrice,
Peut-être que je suis le bug dans la matrice, sait-on jamais.
peut-être. Ouais, non, mais. Et du coup, en fait, cette femme-là, bah, je l'ai vue, et puis c'est vrai qu'on est resté sex friends pendant un an, et elle, par contre, c'était vraiment. Elle m'a libéré sexuellement.
Moi, je voulais revenir un peu à ça. Sexuellement, même si effectivement tu commences à avoir quelques conquêtes et tu as eu plusieurs aventures, ça reste des histoires un peu courtes. Et puis effectivement, on parle beaucoup, beaucoup de séduction. Mais d'un point de vue sexuel, effectivement, d'après ce que tu dis, cette femme de 30 ans de passé, t'as appris pas mal de choses et t'as libéré sexuellement. Est-ce qu'il y a des fantasmes que tu as? Est-ce qu'il y a des tabous que tu as, des pratiques que tu ne veux pas faire? Enfin, là, t'es quand même encore, même si t'es déjà bien avancé dans ta vingtaine, tu restes quand même encore jeune dans ta sexualité. Est-ce que tes envies, tes désirs, ce que tu aimes se définissent un peu plus maintenant que t'as avancé?
Donc les fantasmes, si on parle de fantasmes de coucher dans des lieux insolites,
Ah bah le fantasme, c'est ce que tu veux, hein.
ouais, C'est, voilà, c'était mes fantasmes durant ces 2 ans et demi. Voilà, je le fais
D'accord.
dans la piscine publique, je le fais dans les vestiaires, je le fais dans les dans mon école, dans mon école. Enfin, là, actuellement, j'ai pas su, à part les un plan A3, un classique, mais c'est vrai que j'ai pas maintenant, j'ai pas de un fantasme, on va dire, absolu, que je désire à tout prix faire.
T'as pas de fétichisme, t'as pas de choses comme ça?
Non, en fait, ouais, non, ça. Moi, je dis, rien ne vaut un bon vieux lit, tu vois. Au niveau des endroits, même
Bon
si c'était quand
secours.
même plaisant, mais même si j'ai quand même aimé ce côté, voilà, on le fait dans des lieux, on n'est pas censé le faire. Mais c'est vrai que mon fantasme, c'était vraiment de draguer et de coucher avec des femmes qui ont la trentaine.
Je pense que, enfin, ça peut rassurer, je sais pas si ça rassurera, mais ça peut. C'est vrai qu'à 34 ans, 30 ans passés, on est en théorie, encore une fois, il n'y a pas de science exacte, mais mieux avec son corps, mieux avec sa sexualité, on se connaît mieux. Enfin, tu vois, on a déjà pris du temps avec soi, on a eu plusieurs partenaires, souvent. Encore une fois, il n'y a pas de généralité, mais.
Ouais, c'est clair. Non, mais c'est ça, c'est de la maturité, du dialogue.
Complètement.
T'apprends,
Du non-jugement, des choses
pas
comme
de
ça.
jugement, etc. C'est vraiment, ça m'a beaucoup ouvert et,
Est-ce que tu as des tabous? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux pas explorer, qui te donnent pas envie, qui t'effraient, qui te répulsent? Est-ce qu'il y a des choses que tu sais que tu ne feras pas à 24 ans?
actuellement, enfin, ouais, bah. Par exemple, une femme qui me demande si elle peut me, comment dire, si elle peut m'enculer avec un gode ceinture, je dirais non.
Alors, c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu violent, je peux comprendre.
Voilà.
Qui que ce soit, c'est un peu violent quand même, hein. Est-ce que je peux t'enculer avec un gode ceinture? Pas sûr que quelqu'un dise OK.
Non, mais genre pas de cette manière, mais toutes les formes
Mais la
possibles
pénétration
pour.
anale, ça te pose un problème.
Ouais, voilà. Ça c'est non, ça c'est pas possible.
Et là, je sais, enfin, pour en avoir interviewé pas mal d'hommes. Tous ceux que je connais avec qui on a parlé qui font, mais ouais, tu verras le jour où ça arrivera avec un gros clin d'œil complice. Je vous vois, les garçons, je
Bah
sais où vous êtes.
après le peut-être le apparemment les massages prostatiques, de
Ouais.
mettre un doigt, bon. On verra dans 5 à 10 ans, mais ça, la pénétration anale, ça, c'est clair que non. Je veux dire, en fait, c'est juste le rapport de
De
dominant-dominé,
domination?
ouais, qui est pour moi.
Qui peut pas changer. Tu penses pas qu'une femme puisse te faire l'amour? C'est toi qui fais l'amour à une femme.
Sur ces 21 filles, il y en a qu'une qui a voulu me dominer. Bah, vu que j'avais pas l'habitude sur les 21. Bah, je prenais pas forcément plaisir vu que toutes les autres me demandaient qu'à être dominé, faire beaucoup la position de la levrette, à mettre à se faire attacher sur un canapé ou sur un lit, à vouloir que je mime un étranglement en mettant ma main sur sa gorge. En fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que il y a toujours cette volonté de contrer l'homme soi-disant dominateur avec des discours publics dans ce sens-là, mais dans le privé, sexuellement, la nature reprend ses droits. Dans le sens où il y a le
Ouais, après ça
fantasme de
dépend,
vouloir être
hein.
dominé.
Après, ça dépend. Il y a déjà dans un rapport, ça peut être l'un et l'autre. Ça peut être dominant-dominé et changer entre guillemets le rôle des partenaires. Toi, tu vois que tu pénètres une femme, mais une femme peut te dire qu'elle accueille un homme et qu'elle peut pénétrer aussi un homme à sa façon. Enfin, tu vois, après, c'est une question de lecture. Et est-ce que pour avoir interviewé des gens qui pratiquaient l'ESM, donc les dominants qu'on appelle les domis et les soumis. Souvent, ils vont te dire que c'est les soumis qui ont le plus de pouvoir et qui finalement dominent intellectuellement et psychologiquement la relation, autrement que eux en tant que dominateurs et qui eux font les actes de domination. Après, on va loin dans là pour le coup, mais je pense que la sexualité, c'est autre chose que l'espace public. Et comme tu l'as dit très bien, c'est très privé. Donc on peut avoir des hommes, et d'ailleurs c'est un peu un cliché pour pareil avoir pris du temps à me renseigner sur les maîtresses, les dominas et les maîtresses sadomasochistes. Souvent, leurs clients qu'elles dominent et qui demandent les humiliations les plus difficiles et les plus hardcore sont souvent des hommes de pouvoir. Des hommes, des politiciens et des grands hommes de pouvoir, des grands patrons, des gens comme ça, qui demandent à ce qu'on leur crache dessus, qu'on les insulte, qu'on leur fasse mal, qu'on les fouette, pour le coup, qu'on les encule avec un gros coup de ceinture.
Ouais, non mais. Ouais,
ces hommes-là, tu vois, donc. Et voilà, et ça n'en fait pas d'eux des hommes moins performants au travail et moins. Tu vois. Donc, voilà, peut-être qu'il faut laisser ce qui se passe dans l'intimité là où elle est et pas en trouver forcément une lecture sociétale, politique, militantiste, etc. On va bientôt arriver au mot de la fin. Ça fait longtemps qu'on enregistre, Micha. Comment tu conclurais cet entretien et qu'est-ce que tu rajouterais que tu n'as pas dit ?
Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Bonne question. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ?
Est-ce que tu es contente de ta sexualité aujourd'hui ?
Ouais, après, là, c'est vrai que là, je commence à vouloir me poser avec une personne et construire une vraie relation, vu que je n'ai jamais
été
avec...
Amoureux.
C'est ça, exactement. Ouais, j'ai envie d'être amoureux, et durant parfois les relations sexuelles, après, j'étais très affectif, comme si, très câlin, comme si j'avais quelque chose à combler. En fait, et je pense que j'ai besoin d'affection, ouais. Besoin de construire quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est vu que je pense que j'ai eu une enfance, j'ai pas eu une enfance difficile sur le plan, on va dire, social, financière, mais donc j'ai pas eu, disons que j'ai eu une enfance difficile sur le plan émotionnel. Où je pense que j'ai pas eu assez de tendresse, avec ma mère qui était distante, avec des tabous, et mon père qui était quelqu'un de très froid. Donc je pense, en faisant mon introspection, c'est vrai que je sais que je veux de l'affection, construire quelque chose de dur maintenant.
Ce sera quoi le mot de la fin ?
Si je devais parler aux auditeurs hommes, je dirais... Dépassez vos croyances limitantes et ayez confiance en vous. Et je dirais aux femmes qui nous écoutent, restez femmes, mais pas dans la connotation péjorative qu'on a attribuée au mot, à ce mot-là. On n'est pas égal, on le sera jamais, mais on est fait pour être complémentaires. Donc, n'allons pas sur un terrain belliqueux alors qu'on est complémentaires. Quand je parle, ça m'arrive de dire que je suis macho. Et macho, comme beaucoup de mots, c'est des termes qui ont changé de sens. Macho, c'est tout de suite, ça envoie le cliché du mec qui rabaisse sa femme, qui la met dans sa cuisine. Mais pour moi, la définition d'un macho, et c'est la citation d'un célèbre auteur que je ne citerai pas, qui est un auteur à polémique, mais ceux qui le connaissent reconnaîtront. Le sens de ma phrase et cette citation, c'est qu'un macho, c'est quelqu'un qui respecte sa mère, qui protège sa femme et qui se sent responsable de ses enfants.
Bah, merci, Micha.
Merci.
Merci pour votre écoute et merci pour la confiance que Micha m'a accordée. C'est vrai qu'il savait que nos échanges allaient être un peu compliqués parfois. Sachez que l'entretien a duré plus de 2 heures. J'ai dû donc couper pas mal d'exemples que Micha me donnait pour illustrer ses propos, parce que c'était très nourri à chaque fois. Donc j'ai essayé de garder vraiment le plus important et respecter au maximum le fil conducteur de notre échange. Voilà, merci en tout cas pour votre soutien habituel, pour vos retours toujours hyper intéressants. On arrive bientôt à la fin de la saison 2, mais il y a quelques épisodes sympas pour cet été qui sont des retours sur... les épisodes et les invités qui vont le plus touché, marqué, bouleversé. Donc j'ai commencé à enregistrer et je trouve que c'est super sympa. Voilà, bah comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos avis sur les réseaux sociaux. Un avis et des étoiles sur Apple Podcasts permettent toujours une chouette visibilité à On The Verge. Et je vous dis à très bientôt.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.